Dans ces opérations qui vont suivre ces prochaines semaines, on en profite encore une fois pour mener une guerre à la drogue. Et on verra si le lien est fait entre terrorisme et cannabis. Mais bon, en tout cas, dans l'esprit de nos politiciens, le lien est fait depuis bien, bien, bien longtemps. Voilà. C'est bien malheureux, mais malheureusement, je pense que ça ne va pas s'arranger. Voilà. Eh bien, on va écouter un peu de musique avant de revenir à l'actu. Un petit morceau de Lee Scratch Perry, je crois bien. À tout de suite.
Mr. Herbs, man, this is my son, the only herb sellers in all the herbs band in London, England, Great Britain. You're gonna get a beat for selling the herbs so dear. So I'm gonna lose a leg, as I'm gonna lose a hand, as I'm gonna lose a wife, as I'm gonna lose a life for selling ganja so dear.
Retour à l'actu, vous êtes toujours avec nous dans Cannabis Circus, donc on vient de s'écouter, comme je vous disais, Lee Scratch Perry avec un petit morceau remix. Le morceau s'appelait Mr. Herbsman, voilà. Donc, pour Lee Scratch Perry. Alors, on va retourner au direct avec de l'info. Donc, je m'excuse un peu, mais je suis tout seul ce soir au micro, à l'antenne. Du coup, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Je me cogne, je fais des bruits, je suis désolé. Donc voilà, on va s'intéresser d'abord à... D'abord à cet article de Slate.fr, on va parler un peu de ce roman sur lequel on s'est rarement attardé dans Cannabis Circus, c'est un peu dommage, d'Alexandre Grondeau, Génération H, il a écrit en fait deux ouvrages, il y en a eu deux. Alors Alexandre Grondeau, le cirque le connaît, on l'a rencontré à quelques reprises et la dernière fois c'était notamment pour le Zion Garden à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard au mois de juillet dernier. Où on s'est rencontrés, on a échangé, on a pu, voilà, Alexandre Grondeau connaît très bien le cirque et en fait, il a été en partie inspiré, notamment par le bouquin de Jean-Pierre Galland, Fumée clandestine, qui est paru, qui a été publié il y a 20 ans. Hein, c'était en 1995, si je me trompe pas, ou même 94. Donc voilà, Alexandre Grondeau qui connaît bien le cirque, qui connaissait Fumée clandestine et qui voilà, ça a été inspiré. Donc je vais vous lire un petit peu quelques passages de cet article de Slate.fr qui parle en fait donc de Génération H, qui parle d'un jeune qui s'appelle Sacha. Fumeur d'élite et mélomane utopiste et qui comble son vide. Donc voilà, c'est plutôt le bouquin de Grondeau, excusez-moi, comble un vide dans la littérature française. Voilà, c'est pas le jeune Sacha qui comble un vide en fumant du cannabis. Au contraire, pas du tout. C'est pas ça que je voulais dire et c'est pas ça qui est écrit. Alors il y a des choses intéressantes dans cet article. Donc Alexandre Grondeau, qui est journaliste, qui est écrivain, mais qui est aussi universitaire et prof à l'université d'Aix-en-Provence, je crois bien. Parle de son personnage, donc ce fameux Sacha, qui appartient à la génération H, H pour hardcore et ou hashish, voilà. Sacha, un jeune type en quête de vécu et d'expérience, c'est un idéaliste qui se heurte aux réalités, aux contradictions des utopies. Il fait partie de ces centaines de milliers de Français qui ont inscrit le cannabis dans leur vie. Il serait trop réducteur de le résumer à cette seule consommation, mais elle reste centrale dans ce second tome de Génération H. Après cet article, on pourra faire le lien un peu plus facilement avec l'article du Monde du mois d'août où on parlait des 80 000 à 200 000 fumeurs cultivateurs. Mais j'ai préféré d'abord commencer par l'article à propos de Grondeau. Donc, la musique, la fuite en avant face aux luttes perdues par les générations passées, l'autorité. Voilà, Alexandre Grondeau réussit à raconter une part de la population oubliée de la littérature française. La France qui fume, mais pas seulement. Merci. Voilà, ce que voulait faire en fait Alexandre Grondeau, c'était prendre le phénomène plutôt dans sa diversité. Derrière en fait les envies de d'aventure ou de road trip du héros Sacha, on retrouve un éternel débat, celui qui oppose la France pinard de la France pétard. Alors Grondeau, il dit qu'en fait la génération H, d'après lui, c'est une génération festive. Les usages du cannabis et de l'alcool s'y retrouvent certes, mais il est quand même difficile de les opposer. La France pinard existe toujours, mais il y a une autre France qui existe, qui a grandi et qui concerne aujourd'hui des gens entre 15 et 65 ans. Avec le cannabis, tout un jargon, toute une culture, une vraie passion qui se décline. Pour cette génération H, elle n'a rien à enlever, n'a rien à envier aux amateurs de bon vin. L'auteur raconte les déclinaisons, les goûts, les manières de consommer, les pratiques venant d'Inde, comme le chillum, les nouvelles herbes qui venaient de Hollande à l'époque. Et le héros et ses amis se retrouvent forcément passionnés par le cannabis, mais pas seulement pour ses effets, ça fait partie de leur mode de vie. Il y a une dimension festive dans le cannabis, mais aussi de la réflexion, de la contestation, de la prise de recul par rapport au système. C'est intéressant que Grondeau parle de ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup beaucoup, je ne sais pas s'ils sont encore beaucoup aujourd'hui, mais pas mal de jeunes qui ont pu découvrir les produits psychotropes accompagnés de lectures. À une époque, c'était vraiment très à la mode. Tout le monde lisait, enfin, beaucoup de gens aimaient lire les bouquins de Carlos Castaneda, L'herbe du diable et la petite fumée, voir Voyage à Ixlan, voilà, toutes ces choses-là. Et en parlant de tout ça, Grondeau fait indirectement référence à ces sources qui sont peut-être pas Castaneda, mais c'est pas impossible. Je pense aussi au bouquin du Chaussois, La Flash par exemple, qui a été lu par pas mal de jeunes qui ont découvert les substances psychotropes durant leur vingtaine. Voilà. Alors l'auteur poursuit et dit voilà, bah, je me suis inspiré de mes proches, des gens qui sont aujourd'hui des fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des avocats, des journalistes, voire pourquoi pas des chômeurs. Mais le roman n'a rien de moralisateur. Il constate et casse bon nombre de clichés comme celui du dealer violent qui exploite la dépendance. Si cette vision est souvent vraie, elle n'est pas unique. Voilà, Génération H, c'est la prise du phénomène cannabis dans toute sa diversité avec les yeux d'un auteur qui l'a vécu au plus près. Les gens dont je parle dans mes romans, ils ont aujourd'hui entre 35 et 45 ans, ils sont complètement insérés dans la société, ils ont un boulot, ils peuvent être fonctionnaires, chefs d'entreprise, avocats, etc. Malgré le côté radical, ces gens sont des Français comme tout le monde. Alors, c'est un bouquin qui connaît un certain succès quand même, parce que le premier exemplaire s'est vendu à près de 20 000 exemplaires, il est sorti en 2013. Le second, il s'est déjà vendu à 6 500 exemplaires. Alors apparemment, ça devrait être une trilogie. Mais c'est clair que, comme dit Slate.fr, les médias généralistes s'en font assez peu l'écho. Il est quand même passé sur France Inter, mais le CSA a quand même rappelé à l'ordre la radio parce que l'animateur n'avait pas, à aucun moment, l'animateur de l'émission n'avait rappelé le caractère illégal de la consommation de cannabis, ni même évoqué les risques pour la santé qu'une consommation importante de cette drogue peut entraîner. Et donc cet animateur avait ainsi manqué à son devoir de bonne information des auditeurs. Excusez-moi, ce soir je bafouille beaucoup. Voilà. Alors par contre, ça ne les empêche pas, ces animateurs, de nous parler de la fête du Beaujolais Nouveau tous les ans au mois de novembre ou d'autres alcools. Et là, le CSA ne réagit pas. Bon, après on dit, bah tiens, il y a peut-être quand même deux poids, deux mesures. L'alcool qui tue quand même un paquet de gens tous les ans, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette interview qu'il donne à Slate, c'est qu'il fait la comparaison entre les consommateurs de cannabis lambda, qui en fait monsieur tout le monde, hein, c'est un peu ça qu'il veut démontrer, et en face de ça, des moyens mis en place pour lutter contre eux. L'arsenal juridique qu'a développé l'Hexagone. Voilà, c'est effectivement, il y a un paradoxe entre ces gens qui, par exemple, vont fumer un pétard le soir et en face, l'arsenal juridique qui est là pour les arrêter, les fliquer, les criminaliser. C'est quand même assez intéressant de parler de ça, même si là dans cet article il s'est pas tellement développé, mais quand même il dit quand même il y a quand même beaucoup de gens que je vois qui restent fermés à toute discussion et qui considèrent que la génération H ne représente personne et qu'elle n'est pas insérée. Forcément, si on veut pas voir la réalité, ben on risque pas de la voir. Alors c'est intéressant aussi parce que dans cet article il nous dit Bukowski notamment, qui était passé dans Apostrophe chez Pivot dans les années 80, qui était complètement bourré et qu'il avait fallu évacuer du plateau. Grondeau dit Bukowski, quand il écrivit ses bouquins, personne n'allait lui dire que l'alcoolisme c'est terrible, personne ne lui a fait la morale en posant des questions sur l'interdiction de l'alcool. Et Grondeau dit, je crois qu'on aura avancé quand les gens parleront autant de mes romans pour la description des milieux alternatifs que pour le cannabis. Voilà. Et enfin, pour terminer, j'aime assez bien aussi cette dernière partie de l'article. Il dit, aujourd'hui, on vit dans une époque où toutes les utopies sociales ont disparu, ou en tout cas les jeunes n'en ont plus trop connaissance. Et du coup, beaucoup de jeunes en fait ont cette idée qu'il faut tout vivre maintenant en fait, parce que c'est l'avenir et que l'avenir finalement on l'a pas devant nous et qu'on l'a même pas du tout. Ça fait un peu penser au New Future, No Future des punks de la fin des années 70, mais bon, on se demande si c'est pas encore vachement d'actualité tout ça. Alors, il dit que c'est toute cette façon de vouloir vivre tout maintenant et de tout prendre, ça explique aussi les excès, les abus, cette volonté de tout faire en se disant qu'on vivait une réalité, un rêve éveillé et qu'on se réveillerait dans un cauchemar, une sorte de symbiose entre le do-it-yourself, la recherche de liberté et la quête d'expérience. Mais il n'y avait plus le regard idéaliste des années 60. On avait bien vu l'échec des utopies des 68 arts et des 30 glorieuses. Nous, on voulait vivre différemment, on mettait tout de suite en application nos idéaux et nos valeurs. On était leurs enfants, mais on était des sales gosses qui voulaient montrer que leurs échecs n'étaient pas les nôtres, qu'on pouvait vivre différemment sans faire de communication. Les sales gosses ont grandi, en plus maintenant, ils ont un livre. Ils ont des livres, parce que quand même, Fumée clandestine, ça a inspiré plus qu'une génération. Voilà un peu pour Grondeau. On va écouter un peu de musique tout de suite là maintenant. Quand j'aurai trouvé le bon morceau qui va bien, et on va revenir. On va revenir à l'actu. Allez, à tout de suite. Un petit Asian Dub Foundation. À tout de suite.
Asian Dub Foundation dans leur premier album Facts and Fiction, TH9, un morceau bien sympa qui a pas mal d'années maintenant. Voilà, on va continuer notre revue de presse. On va s'intéresser maintenant à cet article du Monde qui est pas tout neuf, mais qui reste intéressant pour faire un peu le parallèle avec l'article dont on vient de parler, l'interview dans Slate.fr d'Alexandre Grondeau, l'auteur de Génération H, H comme hardcore ou hashish, Génération H, qui parle de cette réalité des Français amateurs, amateurs de chanvre, voilà. Qui alors là dans l'article du Monde en fait ça nous parle en fait de ces cultivateurs de ces cultivateurs en fait qui voilà bah qui sont horticulteurs à leurs heures perdues et qui aiment bien cultiver un peu plus que des tomates. Même si parmi les cultivateurs de cannabis, il y a aussi des amateurs de tomates qui en font pousser. Donc dans cet article, on nous dit qu'il y aurait entre 80 à 200 000 personnes en France qui aimeraient faire pousser du cannabis pour leur usage personnel. Voilà, donc ces 80 à 200 000 font partie de cette génération H de Alexandre Grondeau. Alors là, dans cet article, il y a plusieurs portraits entre guillemets de cannabiculteurs. Alors il y a Jean-Luc, par exemple. Jean-Luc, qui habite un vieux corps de ferme dans la région en Picardie, qui est un militaire de 56 ans, encore actif pour quelques semaines, disait-il. Et donc, ce Jean-Luc, qu'est-ce qu'il faisait ? Eh ben, dans son corps de ferme, voilà, il a 700 mètres carrés de terrain et il a des belles plantes. Mais dans un petit coin de son jardin, planqué derrière une haie de forsythia et de cotonéaster, eh bien, 5 à 10 pieds de cannabis qui poussent chaque année en pleine terre. Et il dit, voilà, je taille tout ça pour que ça ne monte pas trop haut. Je tire les branches au sol pour que ça parte en largeur. Mais c'est à peu près tout. Je n'arrose même pas. Ça pousse comme du chien dent. Nous dit Jean-Luc. Voilà. Donc, il fait pousser avec le calendrier lunaire, visiblement. Il ne s'intéresse pas aux engrais, puisqu'il n'en met pas, il n'arrose pas, en fait, dit-il. Il dit qu'en fait, il récoltera tout ça fin octobre, et il dit qu'il aura à peu près 500 grammes d'herbe séchée. Pas assez pour fumer pendant un an, dit-il, mais peu importe. Et il dit, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est comme les tomates, quand la saison est finie, on n'en mange plus. Néanmoins, j'y suis attaché, c'est le seul psychotrope que je cultive, ça me détend et surtout je suis content d'en disposer pour presque rien. Comptez une soixantaine d'euros pour 10 graines quand la valeur du gramme d'herbe se négocie entre 9 et 20 euros dans les cages d'escalier. Même une éventuelle descente de ses anciens collègues ne semble pas de nature à le troubler. Voilà, 10 pieds au fond du jardin, dit-il, ça n'ira de toute façon pas bien loin. Ensuite, dans cet article un peu plus loin, on nous parle des saisies d'après l'OFDT. Alors voilà, jusqu'au début des années 2010, quelqu'un de l'OFDT, Michel Gandillon, disait que jusqu'en 2010, on découvrait en moyenne 50 000 à 60 000 plants par an. Et en 2014, on en a saisi 158 592, c'est-à-dire le triple. Une autre manière de prendre la mesure du phénomène qui consisterait également à entrer les mots-clés cannabis et cultivé dans Google Actualité. Et comme on vous le dit d'ailleurs à peu près toutes les semaines, chaque jour son lot de faits divers et de saisies, souvent fortuites, tissées par la trame mystérieuse et implacable du destin où s'en mêle guigne, délation et relevé inopiné du compteur EDF. C'est d'ailleurs pour éviter d'éveiller les soupçons en forçant sur le kilowattheure qu'un certain nombre de cannabiculteurs se sont désormais équipés en matériel d'éclairage à LED. Voilà. Dans cet article, on parle également de cette personne qui est cadre, un dirigeant, un trentenaire qui veille le jour sur un réseau informatique d'une très grande entreprise française et qui veille chaque soir sur sa production d'herbe méticuleusement calfeutré dans la cave de la maison de Versailles. Et ce cadre nous dit, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'autoproduction, je ne fume plus de cigarettes, mais j'ai encore besoin d'un joint le soir. De toute façon, c'est ça ou du Xanax. Voilà, qui est d'anxiolytique. Ce cadre qui s'appelle François dans l'article, en tout cas, avoue sans détour avoir longtemps apprécié le versant dit récréatif du cannabis, et il dit à 20 ans, j'étais une loque, je fumais matin, midi et soir, mais apparemment maintenant il préfère explorer la pente médicinale du cannabis. J'ai une femme, deux enfants, des responsabilités professionnelles importantes, j'ai besoin de cette coupure qui me relaxe, mais je ne vais pas courir le risque d'aller acheter un produit de mauvaise qualité dans un endroit mal famé. Voilà. Alors il a commencé avec un groupe d'amis en débroussaillant un peu le sous-bois pas loin de chez lui pour faire pousser du cannabis. Mais maintenant, voilà, il a sa petite installation chez lui, bien propre et tout, pour pas avoir de soucis et pour être approvisionné à peu près tout le temps et sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Dans l'article, on nous parle également de ces techniques de pointe de culture, comme par exemple l'aéroponie ou l'hydroponie, avec de nouvelles variétés de graines, des variétés hybridées pour avoir des produits meilleurs, de meilleures plantes qui soient plus productives, qui produisent plus de substances actives aussi, nous dit-on. Les grainetiers ont ensuite, pour coller au marché, sélectionné des variétés pour que ce ne soit plus que des plantes femelles, puis pour que ce soit des plantes autofleurissantes. Et puis il y a tout le matériel qui va avec. Dans l'article, on nous parle des engrais, des engrais flash, des lampes, des cabines occultantes, des filtres à charbon, du gel contre les odeurs, des extracteurs d'air silencieux. Et finalement, le stade ultime de cette frénésie, dit le journaliste du Monde, culmine dans la technique de l'aéroponie. Il ne s'agit pas ici de chevaucher un pégase nain, mais de faire pousser les racines d'une plante dans une boîte hermétique remplie d'un brouillard d'eau et de nutriments pulvérisés par un système haute pression. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. C'est de cette manière que la NASA peut faire pousser des salades en orbite, aucun gramme de terre, mais des contrôles des filtres et du pHC quotidien obligatoire. Les résultats sont, dit-on, spectaculaires. Voilà, je crois que ce journaliste n'a pas réalisé qu'une grande partie des fruits et légumes qu'il consomme et qu'il va acheter dans un supermarché sont cultivés de cette manière-là aussi. Mais bon. Voilà, alors bon, après, le problème de la culture indoor, c'est qu'on ne peut pas partir de chez soi parce qu'il faut toujours avoir le nez sur son exploitation. On nous parle aussi, alors c'est intéressant, enfin l'article de ces jeunes qui se sont fait choper en fait par leurs parents, qui se sont rendus compte que leurs enfants avaient trouvé un endroit au fond du jardin pour cultiver du cannabis. Et donc là, il y a cette mère de famille qui connaissait, qui avait vu son fils en faire pousser. Voilà. Alors la maman, elle-même formée au métier de la vigne, se rapprochait en fait de son fils au niveau des méthodes de jardinage biologique. Comme je fabrique de l'engrais de purin d'ortie pour mon potager, je lui en ai proposé et parfois j'ai fait l'arrosage pour lui également, dit la maman. Voilà. Donc tout ça pour éviter d'aller acheter du hashish de mauvaise qualité de contrebande dans des lieux mal famés, ce qui n'empêche pas les cultivateurs de ne pas être à l'abri des interventions de personnes mal intentionnées qui viendraient piquer leur plant de cannabis. C'est ce qui est arrivé à un certain Maurice qui hébergeait sur son terrain des plants de cannabis, et pour lui mais aussi pour 6 membres de son cannabis club, tout en sachant qu'il risquait des poursuites. Certes, il s'est fait donc braquer et ce monsieur, il est quand même allé porter plainte. Donc les vendeurs qui sont venus lui piquer son cannabis et qu'il avait tabassé ont été jugés, dit le journaliste du Monde dans cet article. Ceci dit, le cultivateur, lui, est passé en procès le 15 octobre dernier pour détention de cannabis. Voilà. Alors effectivement, même si les tribunaux essaient quand même de contextualiser les délits, c'est ce que dit David Weinberger de l'Institut des hautes études sur la sécurité et la justice. Donc si les tribunaux essaient de contextualiser les délits en distinguant la consommation personnelle du trafic en fonction des quantités saisies, il faut quand même savoir qu'un producteur de cannabis encourt toujours une peine beaucoup plus forte. Et dans la loi française, il faut quand même le rappeler, la loi dit que le fait de cultiver un seul plant de cannabis, ça peut valoir 20 ans de prison. Voilà. Quand même le savoir, c'est énorme. Si en plus on cultive ça à plusieurs, ben c'est du la culture en bande organisée. Il suffit d'être deux pour se faire poursuivre pour culture en bande organisée. Donc bon, c'est quand même pas simple. Heureusement, on entend rarement, voire jamais parler de magistrats qui condamnent à 20 ans de prison un cultivateur de cannabis. C'est plutôt quelques mois de prison avec sursis ou même ferme, hein, comme c'est arrivé il y a quelques temps. Mais la loi prévoit quand même 20 ans de prison, ce qui est quand même vraiment énorme. Voilà. Et pour finir, donc, ce cultivateur qui s'est fait braquer finit par dire « Je peux arrêter de consommer, mais pas de cultiver. C'est une si belle plante, c'est la reine des plantes. À côté, le plant de tomate n'a aucune dignité, il s'effondre sur lui-même. » Voilà, un cultivateur passionné par son, par son cannabis. Il y en a, ça existe, c'est super, heureusement. Au moins, grâce à eux, on peut avoir des jolis pieds. Voilà. Ensuite, putain, il est déjà 9h moins 10, le temps passe. Allez, un petit morceau, un petit peu d'Amon Tobin, à tout de suite.
Electro, hypno, is this 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 electro, hypno, is
Triple Science à Montaubyn dans l'album Out from Outwear, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Allez, il nous reste 6 minutes avant de terminer l'émission. Je vais essayer de vous faire très vite cet article dans Grazia. Les femmes sont-elles l'avenir du cannabis ? Point d'interrogation. Le cannabis qui fait toujours débat en France est de plus en plus plébiscité par les working girls à la recherche d'une forme d'antistress. Un remède qui n'est pas sans risque. Alors je vais aller à l'essentiel. Entre 2010 et 2014, les usages ont eu tendance à beaucoup augmenter parmi les femmes de 18 à 40 ans, comme d'ailleurs chez les jeunes filles de 17 ans, nous dit François Beck, le directeur de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, femme de la série préférée des hipsters Quadra High Maintenance, qui raconte le quotidien d'un dealer livrant de l'herbe au domicile de clients new-yorkais huppés et sous pression. Véronica, élue de la question de son approvisionnement. J'ai vécu dans différentes régions de France et n'ai jamais eu de mal à m'en procurer par mon entourage. En fait, c'est très banal. Décomplexées, ces femmes workaholiques qui vivent confortablement considèrent le cannabis comme une façon de relâcher la pression du « having it all », pas comme une addiction toxique. Par exemple, Fanny, 37 ans, maman dans les beaux quartiers de Nice et qui frôle parfois, selon son compagnon, la psychorigidité. Pour elle, l'herbe est un placebo, une bulle d'air. Je la cultive moi-même parce que ça me coûte moins cher et ça m'évite d'aller en chercher dans les quartiers flippants. Et puis les joints m'empêchent de me remettre à la cigarette. C'est ma récompense à la fin de la journée ou quand je stresse en soirée, je les roule à l'avance. Et ceux qui ne fument pas n'y voient que du feu car je les dose très peu. D'ailleurs, je ne fume jamais les joints des autres, trop chargés. Après, tu deviens mutique, replié dans ton coin. C'est horrible. Sandra, 40 ans, chef de projet dans un label musical, nous dit qu'il persiste quand même un tabou de l'alpha woman qui fume. Dans mon entourage amical, dit-elle, fumer c'est cool, c'est bien vu, surtout en soirée où les discussions peuvent être plus consistantes et existentielles. En revanche, pas question de rouler un pétard avec mes copines maman ou d'en faire part à mes hiérarchies. Le cannabis reste diabolisé, on passe vite pour une fille instable et immature. Alors le cannabis c'est quand même quelque chose qui est quand même adopté aussi par des femmes particulièrement hype. Dans le paysage mainstream, dans l'article, hein, les pop stars sont adeptes de la transgression savamment dosée et elles n'hésitent plus à mettre en scène leur amour pour la ganja, comme par exemple Miley Cyrus ou Lady Gaga qui ont déjà allumé un pétard sur scène et Rihanna qui publie régulièrement des selfies où se superposent faux ongles ornés de diamants et joints surdimensionnés. Voilà. Un petit peu à propos de cet article. Et pour finir, voilà, Sabrina, 47 ans, qui est atteinte de sclérose en plaques, qui s'est mise à fumer après avoir obtenu le feu vert en toute discrétion de son médecin. Elle dit, voilà, ça remplace les médicaments qui bousillent le foie, les antidépresseurs. Voilà. Sinon, pour terminer, dans cet article, Marianne, médecin qui, d'après des années de consommation régulière d'herbe, a connu un jour la mauvaise descente et des crises de panique qui l'ont forcée à prendre un congé maladie de 6 mois à un very bad trip pour Marianne. Donc, les femmes sont-elles l'avenir du cannabis ? Peut-être, en tout cas pas pour tout le monde, hein, c'est toujours pareil. En tout cas, aux États-Unis, notamment en Alaska, on se rappelle de cette présentatrice de journaux télévisés en Alaska qui en direct à l'antenne a démissionné pour aller s'occuper uniquement de son association de cannabis en fait parce qu'elle faisait partie d'un cannabis social club, elle était même la présidente d'une association. Donc en tout cas aux États-Unis c'est quand même beaucoup plus libre et il y a des femmes qui se lancent dans le business du cannabis. Il nous reste deux minutes, voilà, pour parler de cet article dans 20minutes.ch à propos de l'utilisation de drogue, du mélange de pas mal de drogues. Ça peut être le GHB, la kétamine, du poppers ou un certain nombre d'autres produits. Alors le poppers, pourquoi ? C'est un vasodilatateur, donc ça peut être pratique lorsqu'il s'agit de relations sexuelles. En tout cas, il se trouve que en Suisse, dans cet article, on nous parle de cette utilisation et de mélange de beaucoup de substances pour participer à des séances de chemsex. Ça veut dire quoi, chemsex ? Chemical sex, hein, l'utilisation de produits chimiques pour des relations sexuelles. Voilà, il y a des adeptes apparemment de ces partouzes chimiques. En tout cas, ça inquiète un certain nombre de médecins en Suisse. Alors, il y a le témoignage de Rainer Camber de l'association Santé Sexuelle Suisse qui dit que ces pratiques sont pas nouvelles, qu'elles existent déjà depuis au moins une vingtaine d'années, depuis les années 80-90, à l'époque où l'épidémie de VIH est à son paroxysme. Alors, il a un verdict sans appel, ce monsieur. Il dit que ces fêtes sont malsaines à tous les égards. Mais le bière, c'est bien entendu le risque de maladie. Pourquoi le risque de maladie ? Ben en fait, quand on prend pas mal de produits et qu'on a des relations sexuelles, souvent on oublie de se protéger, on oublie la prévention, d'utiliser des préservatifs. Et effectivement, dans ces conditions, c'est propice à la transmission d'infections sexuellement transmissibles, et pas que du VIH. Mais il n'y a pas que le VIH, hein, y a aussi la syphilis, il y a des chlamydia, il y a les papillomavirus, il y a des gonorrhées. Voilà, tous ces produits sont, toutes ces maladies sont quand même assez emmerdantes. Il y a les hépatites aussi. Donc voilà, il faut quand même faire attention. On peut aimer consommer des drogues et avoir des relations sexuelles, mais il faut jamais oublier de se protéger. C'est quand même important. En France, il y a quand même 30 000 personnes qui vivent avec le VIH sans savoir. Il y a aussi plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont concernées par la syphilis et qui le savent pas forcément, ou qui s'en sont peut-être rendu compte qu'il y avait peut-être un petit quelque chose, mais qui sont pas allés voir leur médecin. Donc voilà, pour ça, il y a quand même des centres d'information, de dépistage anonyme et gratuit. Il y a des SIDistes, également des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles dans les hôpitaux. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire part à votre médecin, et sinon rendez-vous dans ces lieux qui sont gratuits et anonymes. Voilà. Ensuite, voilà, je vais terminer là-dessus. Aux États-Unis, il y a une tribu Sioux qui avait eu l'autorisation de cultiver du cannabis dans le Dakota du Sud en vue de le vendre à des fins récréatives. Il y avait un nouveau parc d'attractions donc dans le Dakota du Sud. Un parc d'attractions un peu dédié à la fumette récréative qui devait ouvrir le 31 décembre. Et c'est une tribu Sioux qui était chargée de cultiver le cannabis. Voilà, il y avait 30 variétés différentes de cannabis qui poussaient, ce qui était quand même pas mal. Le cannabis ne devait pas sortir de la réserve et chaque sachet devait comprendre un code barre. Donc c'était bien prévu, bien ficelé. Il y a quand même eu des discussions avant l'ouverture de ce parc, des discussions qui portaient notamment sur la légalité du projet, mais quand le gouvernement a présenté quelques-unes des règles auxquelles les gérants devaient se soumettre, comme l'interdiction de la vente de cannabis aux non-américains, la tribu Sioux a paniqué, a pris peur et elle a tout fait brûler. Elle a incendié la totalité de sa récolte de peur de se voir arrêtée par les autorités et la DEA. Donc c'est vraiment dommage, il y en avait quand même un paquet, tout ça dans une réserve de 5 000 m². Voilà, donc une grosse récolte de cannabis partie en fumée parce que la tribu Sioux qui l'a cultivée a eu peur. Voilà, on va se quitter là-dessus, c'est maintenant la fin de Cannabis Circus. Chasseur de son est pas loin, ah là, il arrive ventre à terre. Je vous remercie d'avoir une fois de plus été fidèle à l'émission Cannabis Circus tous les lundis soirs de 21h à 22h, l'émission du Cirque Lyon. Le Cirque Lyon, vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07, par mail sur internet cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez visiter notre site internet cirque-lyon.fr ou nous envoyer un courrier par voie postale Cirque Lyon BP 93043 69605 Villeurbanne-Sedex. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Maintenant, c'est Chasseurs de son. Au revoir.